Fréquence Mistral, c'est samedi matin, il est 11h. Merci beaucoup Paul Léger avec cette merveilleuse émission d'accordéon que nous retrouvons tous les samedis matins à 10h. Et il est l'heure maintenant de reprendre le direct très spécial depuis toute cette semaine, depuis ce mercredi. Nous allons retrouver François Malabave avec son programme autour des correspondances de Manosque et avec ses invités. François, bonjour. François, alors au programme aujourd'hui.
Le programme, c'est Olivier Chaudançon qui va le donner dans un instant, mais au programme de notre émission, nous allons parler littérature, évidemment, nous allons parler correspondance, bien sûr, mais vous verrez, nous parlerons aussi graphes et football. Et puis, dans un premier temps, je vous propose tout simplement d'écouter, comme de tradition, le programme du jour, en l'occurrence le programme de ce week-end, donné par le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, et on se retrouve tout de suite après. Olivier Chaudançon, le week-end s'annonce littéraire et musical.
Et très actif, là en ce moment, les apéros littéraires sont en train de se dérouler. Une rencontre, je tiens à la mentionner, avec les éditions de Lorma également, qui ont inventé une nouvelle façon, je trouve, de publier la correspondance avec des tout petits recueils, des choix de lettres très fins, très précis. C'est d'ailleurs à partir de leur recueil que l'on a monté la lecture Emily Dickinson. Voilà, donc on va discuter édition de correspondance avec les éditions de Lorma. Il y a toujours un peu de cinéma aussi, d'images aux correspondances. Et en ce moment, Le Monde de Proust, très beau film de Thierry Thomas, est en train d'être projeté en avant-première à Manosque. On débute l'après-midi avec les siestes littéraires, ça c'est normal, c'est la moindre des choses, et à 15h, beaucoup de rencontres. Marie Dariosek, pour un ouvrage qui s'appelle Pas dormir, qui n'est pas un roman, qui est une sorte d'essai, mais d'essai littéraire, où elle convoque pas mal de textes de sa bibliothèque, le cinéma, etc., et elle nourrit ce questionnement autour de son impossibilité à dormir. Marie Dariosek est insomniaque, quelque chose d'entrée qui est partagé par beaucoup de gens, et elle est passionnante à écouter. Je pense que tous ceux qui ont eu affaire à ce genre de problème, et même les autres, auront beaucoup d'intérêt à l'écouter parler. À la même heure, un dialogue entre Jean-Baptiste Delamo et Dan Nizan, deux auteurs qui traitent de l'héritage de la violence qui se transmet de génération en génération, et particulièrement des pères vers les enfants. Deux fictions extrêmement fortes sur ce sujet. Et puis, toujours à la même heure, Julie Rocco et Antoine Wauters, qui, eux, l'un et l'autre, ont écrit autour de la Syrie. À 16h30, Alain Guiraudy, un de mes coups de cœur personnels de la rentrée, ça s'appelle Rabalaïr, c'est édité chez POL, ça fait 1050 pages. Ça commence dans la tête d'un type qui est en train de faire du vélo, et les paysages défilent, il voit des moutons, il se dit tiens, il doit y avoir un berger dans le coin. En effet, il voit un berger plus loin, et puis encore un peu plus loin, un curé dans une vieille AX. Tout ce que je vous dis pourrait être parfaitement inintéressant, et sauf que sous la phrase d'Alain Guiraudy, c'est juste passionnant, et après il va se passer des trucs de dingue. Voilà. Donc je vous incite à vous jeter sur ce livre complètement hors norme et singulier. 16h30 toujours, Patrick Deville, grand habitué des correspondances, qui poursuit son exploration du monde et qui là va dialoguer avec Thierry Frégé. 16h30 toujours, deux autrices de premier roman, l'une et l'autre remarquables, Salomé Kinner et Timothée Stankulescu. Et à 16h30 dans la petite salle du théâtre, Claire Fercac, qui va s'intéresser aux, non pas foudroyés, mais fulgurés, ceux qui ont pris la foudre mais n'en sont pas morts. Elle en fait une lecture-projection, un objet étrange et assez puissant, électrique si j'ose dire. À 18h, Philippe Jaénada, un grand habitué des correspondances, qui revient avec un pavé, l'exploration d'un fait divers. Il mène l'enquête et il ne se prive pas de digressions assez drôles. Elena Mariensky, Presque toutes les femmes, livre remarquable. Denis Michalis et Thomas Clerc. Voilà un peu le programme littéraire de cet après-midi, programme bien chargé. On poursuit la soirée à 21h au Théâtre Jean le Bleu avec une soirée Camus. C'est l'année Camus dans la région sud et on a fait appel à un magnifique lecteur, Pierre Beau. Il était venu pour Henri Michaud, une lecture donc c'est non. Je pense que ceux qui avaient assisté à cette lecture s'en souviennent parce qu'elle était mémorable. Donc un excellent lecteur, Pierre Beau, et un excellent musicien, Mahu, qui aura ouvert le festival et qui sera encore avec nous samedi soir pour musicaliser ces textes de Camus. Il y aura Noce, il y aura des lettres, il y aura des extraits de textes. Voilà, on a fait un petit hommage, feu d'artifice et mosaïque à Camus. Et on termine la soirée avec la Beat Generation, qui sera évoquée et célébrée par la chanteuse Barbara Carlotti, accompagnée d'un DJ qui va projeter du son et des images. Et j'en profite pour préciser que devant la demande, ce spectacle qui était programmé à la capsule, nous avons pris la décision de le transférer au théâtre Jean Le Bleu. Voilà, donc il reste des places puisqu'on en a remis beaucoup en circulation de façon à ce que personne ne soit frustré et aussi de façon peut-être à disposer d'un plateau plus large pour mieux faire voir et entendre ces images poétiques.
Et après le samedi, il y a le dimanche, Olivier.
Oui, alors ça, c'est une habitude, hein, on n'y déroge pas, toujours le dimanche, et un dimanche qui commence, somme toute, assez tôt, même si on s'est couché tard. À 11h, Agnès de Sarthe et Maria Pourchet qui dialoguent. Maria Pourchet, un des phénomènes de la rentrée, et Agnès de Sarthe, de qui on parle beaucoup aussi. Donc, très beau plateau, l'apéro littéraire. Un film en avant-première, encore avec Arte, Les liaisons scandaleuses, autour donc des liaisons dangereuses. La sieste bien méritée de 14h30, l'ultime du festival. À 14h30 également, Anne Berest. Un peu plus tard dans l'après-midi, Manuel Villas, un auteur espagnol formidable, publié dans cette belle maison, les éditions du Sous-sol. Il avait écrit Ordesa il y a 2 ans, qui avait eu le prix Médicis, je crois. Il revient avec Alegria, qui, comme son nom l'indique, est plus joyeux, mais tout aussi fou que le précédent. À 15h, toujours en dialogue entre Lou Canche et Mariam Majidi. Et puis on aborde la dernière ligne droite des rencontres, 16h30. On aura le choix entre Laura Morante, cette comédienne qui publie son premier recueil de nouvelles en dialogue avec Léonore de Recondo, Yakuta Alika Vazovic en dialogue avec Emmanuel Lambert. Deux très beaux livres sur le père, l'une et l'autre. Emmanuel Lambert pendant l'agonie du père, Yakuta Lekazovic pendant une nuit qu'elle passe au musée du Louvre et elle se remémore l'amour que son père avait pour ce musée. Et 16h30 toujours, plateau premier roman, Fanny Taillandier et Marie Vintras. 16h30, ultime rencontre dans la petite salle du théâtre Jean Le Bleu, Julien Delmer, que l'on connaît très bien à Manosque, c'est un ancien résident, qui revient avec un très beau livre qui s'appelle Delta Blues. Ça se passe dans le Mississippi, ça nous parle de racisme et de misère et de violence sociale, mais ça nous parle aussi du blues, c'est une histoire du blues. Voilà pourquoi Julien sera accompagné par un grand musicien qui se nomme Nicolas Ropach, que l'on connaît notamment parce que c'est lui qui joue très souvent avec Arthur Ashe. Voilà, donc il va y avoir un beau duo de blues, littéraire et musical. Et puis on termine ces 23e correspondances avec un duo qui au fond s'est formé pendant le festival puisqu'ils se sont rencontrés ici il y a quelques années, Sylvain Prudhomme, encore un ancien résident, et Albin de la Simone, habitué des siestes acoustiques de Manosque. Albin de la Simone, chanteur, arrangeur, mélodiste, et donc évidemment ce sera une lecture musicale, mais ce sera aussi une lecture musicale dessinée parce que Albin dessine très bien et dessinera en direct, en scène également.
Olivier Chaudançon, directeur des correspondances pour ce magnifique week-end qui s'annonce. J'espère qu'on n'aura pas beaucoup d'eau et puis qu'on aura évidemment de la pluie. Mais après 19h, ce serait pas mal, dimanche évidemment. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvain Patieux. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous venez d'écrire Amour Chrome, c'est paru aux éditions Medium à l'École des Loisirs. On va parler avec vous justement de ce roman et puis de cette plongée que vous nous proposez dans le 9-3, c'est comme ça qu'on dit,
c'est-à-dire... Oui, on peut dire comme ça, mais... Seine-Saint-Denis, quoi.
Dans la Seine-Saint-Denis, et surtout avec des adolescents de la Seine-Saint-Denis, on a le héros principal, on va l'appeler comme ça aussi, même si c'est pas tout à fait ça, c'est un certain Mohamed Ali. Alors, ça nous rappelle déjà un personnage célèbre, Mohamed Ali, mais un peu différent. Il est graffeur, c'est sa passion, il a 15 ans, 16 ans, il est au collège, il est un petit peu, il est très secret, hein, parce que il sort faire ses graphes sans rien dire à personne, même ses parents ne le savent pas. il est réputé. Il commence à être bien réputé dans ce milieu. Et puis, on a ses collègues, ses copains à l'école, surtout un de ses copains qui s'appelle Zacho, qui est pas très gâté, on va dire comme ça, mais c'est une amitié franche, des amitiés adolescentes, des filles aussi à côté, un groupe de filles. Des filles qui vont lui apprendre d'ailleurs à un moment à s'habiller, par exemple, pour pouvoir séduire. C'est particulier, mais on va y revenir, Sylvain. Et puis, il y a une fille inaccessible, qui est magnifique, une grande blague, Aimée. Quel joli prénom. Aimée, elle est footballeuse, figurez-vous. Et elle joue au football, mais une fille blague qui joue au football, en plus en Seine-Saint-Denis, vous imaginez, c'est assez compliqué. Voilà. En gros, les personnages principaux de votre livre, Sylvain, vous connaissez bien ce milieu des adolescents de la Seine-Saint-Denis ?
Ben moi, je vis en Seine-Saint-Denis, j'y travaille depuis toujours. Enfin, dès que j'ai commencé à travailler comme enseignant, c'était en Seine-Saint-Denis. Donc j'étais enseignant au lycée, à l'université maintenant, à Paris 8, à Saint-Denis. Et puis, ben, ça fait 6 ans que j'habite à Noisy-le-Sec, donc dans le 93. Mes enfants vont à l'école, ils font du sport dans ma ville. Et voilà, donc du coup, je suis assez imprégné par ce département, même si vous l'entendez peut-être un petit peu à ma manière de parler, mon accent. Je suis originaire d'Aix-en-Provence.
Oui, mais, ça nous parle un petit peu, là. Je voilà. Une musique que je
qu'on reconnaît, bien. Voilà. Mais j'étais un peu adopté par la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est un département, quand on le voit de loin, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de caricatures. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi. Et quand on y habite, on se rend compte qu'il y a une grande diversité. Alors bien sûr, il y a une grande diversité d'origine, etc. Mais il y a aussi une diversité sociale. Il y a des gens qui habitent en cité, mais il y a aussi des gens qui habitent en pavillon, des gens qui sont plus ou moins riches, plus ou moins cultivés. Et voilà, c'est aussi ça dont je voulais parler. Et bon, comme j'ai des enfants qui sont jeunes, je suis un peu imprégné par la jeunesse. Comme je suis enseignant, je côtoie beaucoup de jeunes.
Quelle est la matière que vous enseignez ?
Alors, j'enseigne l'histoire et j'enseigne aussi dans le master de création littéraire. Parce qu'il y a un master de création littéraire à Paris 8. Ça peut paraître un peu bizarre, on donne pas vraiment de recettes pour apprendre à écrire. Mais on essaye d'accompagner des étudiants qui ont un projet d'écriture dans leur projet.
Donc c'est une excellente chose, donc vous connaissez bien l'écriture. C'est votre premier livre ou est-ce que vous avez déjà produit
Non, j'en ai fait pas mal. J'ai écrit des livres en tant qu'historien, donc ça je vais pas en parler, mais c'est mon travail de recherche. Et puis sinon j'ai écrit plusieurs romans. Donc j'ai écrit de la fiction et ce qu'on appelle de la non-fiction. Donc la fiction c'est vraiment l'imagination. J'ai écrit un roman de pirate qui s'appelle « Et que celui qui a soif vienne ». J'avais été invité d'ailleurs à Manosque pour en parler. J'ai écrit un autre roman qui s'appelle « Forêt furieuse » qui met en scène des enfants dans un monde post-apocalyptique. Et puis je fais aussi de la non-fiction, donc là c'est des textes où je pars de la réalité. Pour moi c'est quand même du roman, mais ça vient pas de mon imagination. Et donc j'avais écrit par exemple un roman qui s'appelle « Beauté parade ». Et depuis peu, je fais aussi de la littérature jeunesse. Donc c'est Maya Michalon qui est bien connue à Manosque, qui est mon éditrice à l'École des loisirs, et qui est une amie en fait, parce qu'on était ensemble au lycée Cézanne à Aix-en-Provence en Hippocagne.
Et ça nous permet de saluer Maya d'ailleurs.
De saluer Maya, ouais.
Ici même parce que c'est une brillante modératrice sur les scènes des correspondances.
Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'apprécie.
Exactement.
Et donc c'est elle qui m'a dit, on est amis depuis longtemps, et puis elle est devenue éditrice pour l'École des loisirs, et elle m'a dit, il faudrait que tu écrives pour la jeunesse. Et moi, ça ne m'était jamais vraiment venu à l'idée, mais bon, comme j'ai des enfants, tout ça, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Et j'ai essayé de mettre dans mon texte autant d'exigences que j'en mets pour la littérature adulte. Je dirais que la littérature jeunesse, c'est un peu comme le dentifrice pour enfants. C'est un dentifrice qu'on peut utiliser même quand on est adulte. Et donc, quand on est adulte, on peut lire des livres pour la jeunesse, mais c'est adressé à la jeunesse. Ça, donc voilà, c'est un peu l'emballage quoi, de dire que c'est de la littérature jeunesse. On essaye d'avoir des thèmes qui s'adressent aussi aux jeunes, mais je dirais que dans l'écriture, je pense qu'un adulte, il peut prendre autant de plaisir à le lire qu'un adolescent. Quoi.
Alors Sylvain, on est dans la littérature jeunesse, mais on n'est pas chez Martine ou chez Oui Oui. On est dans autre chose, on plonge dans une réalité très particulière donc du 93, mais en même temps, on croise aussi plusieurs disciplines, des disciplines importantes. Le graphe, par exemple, ce secret de Mohamed Ali, il va la nuit faire ses graphes dans les rues, dans les places, et puis tout d'un coup, bah, il se fait attraper par, par un groupe de graffeurs. Alors il y a de la concurrence, mais en même temps, il y a une espèce de, d'appétence, parce qu'ils font le même travail, et ils ont décelé chez Mohamed Ali du talent. Et notamment une jeune fille qui s'appelle Sabir, quel joli prénom là aussi, et qui lui dit, Miss Sabir d'ailleurs, et qui lui dit beaucoup de choses et qui lui donne des conseils importants. Et puis les autres, alors je les cite, alors il y a Astre par exemple, mais il y a aussi Balek, je vous laisse compléter la suite, ce sont des pseudos, vous l'avez compris. Ils l'ont pris un peu sous son aile, sous leur aile, ce graffeur. Il y a deux groupes de graffeurs qui sont rivaux dans ce territoire, puisque le 93 est partagé en territoire, d'après ce que je sais, ici même à Manosque. Et donc, ils sont rivaux et il va y avoir une, on va dire une fausse bagarre, mais qui va finir de manière très brutale, parce qu'il y a un graffeur, à un moment, qui sort un flingue. Et ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas au niveau des artistes. Et donc là, tout d'un coup, ils disent non, on n'est pas dans ce milieu-là. On va laisser ça à d'autres personnes. Vous vous êtes plongé dans ce milieu des graffeurs et de ces personnes particulières qui dessinent la nuit et qui nous questionnent souvent avec leurs graphes.
Ben, alors moi, là où j'habite, donc il y a beaucoup de tags et de graphes sur les murs et des fresques assez belles. Par exemple, si on prend le canal de l'Ourcq depuis Noisy-le-Sec pour aller jusqu'à Paris ou pour remonter vers le nord de la banlieue parisienne, vers Tremblay en France ou Sevran, il y a vraiment des très très belles fresques. Parce qu'il y a le tag et le graphe. Le tag, c'est la signature. C'est pas forcément toujours très joli. Il y a un travail sur le lettrage, mais c'est pas toujours très joli.
C'est simplement je suis passé
voilà,
par là.
Voilà, c'est ça, je suis passé par là. Le graphe, c'est autre chose. Le graphe, il y a vraiment un effort graphique. C'est de l'art, quoi. C'est du street art, mais c'est de l'art. Et moi, en fait, c'est marrant, mais pour tous ces passages qui concernent le tag et le graphe, je me suis pas inspiré de la banlieue parisienne, mais je me suis inspiré de quand j'étais adolescent à Aix-en-Provence. Où, alors moi, j'étais pas graffeur ni tagueur, parce que bon, j'ai aucun talent en ce domaine-là. Et puis j'étais peut-être pas assez courageux pour aller écrire sur les murs.
C'est défendu, notamment voilà. À Aix-en-Provence.
Voilà, notamment à Aix-en-Provence. Ah, oui. Quand j'étais au collège minier, il y avait des groupes de taggeurs et il y avait deux groupes qui se battaient comme ça. Et cette anecdote d'une bagarre où il y en a un qui sort un flingue, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu, qu'on m'avait raconté. Moi, je suivais ça un peu de loin parce que, comme je dis, j'étais pas moi-même taggeur, mais j'avais pas mal de copains qui le faisaient. Donc là, j'ai vraiment puisé dans mes souvenirs d'adolescence. Et donc voilà, donc il n'y a pas que du tag en Seine-Saint-Denis, il y en avait aussi à Aix-en-Provence. Et il y avait deux groupes de rappeurs, de taggeurs, pardon, il y avait ACA, A comme artiste, et Carton Mural Aixois. Et donc j'ai un peu repris ces termes, j'ai transformé Carton Mural Aixois en Carton Mural 9-3.
Mais c'est et ACA, vraiment... vous l'avez gardé.
ACA, je l'ai gardé, ouais, j'avoue. Et voilà, donc je me suis vraiment inspiré de mes souvenirs d'adolescence.
Alors, vous êtes enseignant en histoire et tout s'explique, puisque vous parlez aussi d'une rencontre de Mohamed Ali avec des darons. Alors, évidemment, il y a le vocabulaire, hein, et il faut traduire avec le dictionnaire du 9-3. Les darons qui graffent, eux, depuis 1988. Et là, vous avez fait des recherches, je suppose, avec justement ce mouvement du graphe qui n'émerge pas au XXIe siècle, hein, puisqu'il
oui,
est ancien.
C'est ça, ouais. Ben, en fait, là, c'est une rencontre aussi qui a eu lieu par hasard. C'est-à-dire que j'étais à vélo le long du canal de l'Ourcq et je vois des vieux, enfin quand je dis des vieux, des gens de mon âge, quoi, qui avaient 40 ou 50 ans. Quoi. Moi, j'ai 42. Ils étaient plus près des 50 que des 40 et ils étaient en train de graffer sur un mur. Alors, je me suis arrêté à vélo et j'ai dit, mais... Je les ai regardés, j'étais fasciné, j'avais l'impression de voir mes copains de quand j'étais adolescent qui étaient en train de graffer mais qui avaient vieilli. Ah donc j'ai discuté avec eux, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous faites et donc ils m'ont expliqué qu'en fait ils étaient graffeurs depuis le début des années 90 et donc ils étaient en train de reproduire sur un mur les photos des graphes de leur plus haut fait d'armes de graphes parce qu'ils avaient réussi à faire des graphes je sais pas sur des métros aériens dans des endroits un peu dangereux quoi. Et donc il y avait des reproductions de graphes avec des dates, 1993, 1992, 1988. Et donc là je me suis dit, mais oui, c'est quand même un mouvement où il y a vraiment une histoire, quoi. Et je me suis rappelé, moi quand j'étais jeune, que j'écoutais NTM par exemple, un des albums de NTM, c'est Paris sous les bombes. Mais Paris sous les bombes, c'est les bombes de peinture, en fait, le tag. Et voilà, donc j'avais lu la biographie de Joey Starr, qui faisait partie de groupes de graffeurs et de danseurs avant d'être rappeur. Et donc j'ai regardé un peu des textes qui avaient été écrits par d'anciens graffeurs, et ça m'a permis de replonger dans cette histoire et de mettre ces personnages qui sont là, donc qui sont des darons, donc darons ça veut dire des parents, quoi, pour
des papas,
dans l'argot du 93. Et voilà, donc il y a aussi cette idée de transmission dans mon livre. À un moment donné, il y a un personnage d'un vieux Shibani, c'est des personnes d'origine marocaine qui travaillaient pour la SNCF. Et donc il raconte ça, à un moment il est face aux jeunes et il leur raconte son histoire, parce qu'ils avaient été un peu lésés par la SNCF, ils n'avaient pas les mêmes droits à la retraite que les autres. Donc il y en a qui se sont battus, qui ont pris des avocats. Voilà, donc j'ai eu envie de mettre ce personnage parce que quand on écrit une histoire, quand on écrit un roman, c'est aussi de la transmission, et moi j'ai envie de transmettre aussi un peu d'histoire, parce que comme je suis historien, on se refait pas, quoi.
Il y a un message historique, il y a un message social également. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'un personnage, c'est Frédéric.
Ah oui.
Alors Frédéric, c'est un gamin comme il en existe beaucoup, milieu plutôt aisé, tranquille, et qui va s'adonner à un commerce. On dit business d'ailleurs.
Voilà, du deal.
Vous avez compris, il va dealer le shit par hasard. Et il va se retrouver embringué dans une drôle d'affaire. Il va se faire voler sa sacoche où il y a un petit peu d'argent, mais surtout où il y a quelques doses. Et donc, il va avoir des comptes à rendre à ses fournisseurs. Là aussi, il y a une connaissance et il y a une vision. Alors, sans faire de manichéisme sur la banlieue un petit peu particulière, sur ce commerce spécial qui concerne le shit. Et donc là aussi, vous nous éclairez sur cette situation, mais en prenant un personnage qui, a priori, n'a rien à voir avec ce milieu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il fait partie des classes moyennes. Donc, dans le 93, il apparaît comme aisé par rapport à d'autres. Et puis voilà, c'est un adolescent qui est pas très bien dans sa peau. Et finalement, de se mettre à vendre du shit, c'est une manière pour lui de se valoriser. Parce qu'il est invité dans les soirées de ses copains. Parce qu'il invite en disant « Ah, tu nous apporteras de quoi fumer ». Et voilà, donc il se retrouve embringué un peu comme ça. C'est pas un mauvais garçon, mais c'est quelqu'un qui est un peu faible d'esprit et qui se laisse manipuler.
Il devient quand même une vedette, puisque on va se fournir.
Voilà,
Frédéric.
Voilà, c'est ça.
Les filles commencent un petit peu à tourner autour de lui, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne connaissait pas avant. Puis un soir, il boit peut-être un petit peu trop.
Et il se fait voler.
Et il se fait piquer tout. Et donc là, il va falloir qu'il rende des comptes. Et c'est là où on voit une certaine cruauté.
Et oui, c'est un monde qui est dur.
Voilà,
moi, c'est vrai que dans la rue où j'habite, par exemple, au bout de la rue, il y a un point de deal où il y a des jeunes qui sont là toute la journée. Ils sont sur leur téléphone. Ils mangent des grecs et ils boivent du Capri Sun et ils attendent des clients. Et honnêtement, ça fait pas rêver. Hein. Il y a des fois des chansons de rap qui valorisent un peu le deal, mais quand on voit ça au quotidien, ça fait pas rêver, quoi. C'est vraiment, ils s'ennuient. Hein.
Surtout quand on est enseignant.
Voilà, surtout quand on est enseignant.
Une autre manière de.
Mais c'est ça, c'est des jeunes,
argent, quoi.
Et puis ça fait un peu partie du quotidien. Moi, à force de passer devant eux, je leur dis bonjour, quoi. Je suis quelqu'un de poli, donc. Je leur dis bonjour, je les salue. Et il y en a aussi à côté de l'école de mes enfants, et ça peut avoir des effets dramatiques, parce que par exemple cette année, à 16h30, à l'heure de la sortie de l'école, il y a eu un règlement de compte, et il y a deux jeunes à scooter qui sont venus et qui ont tiré sur un autre jeune, qui l'ont grièvement blessé. C'était au moment de la sortie de l'école, donc c'est vraiment pas un monde qui est idyllique, hein. C'est dangereux. Hein.
C'est un gros problème de notre société actuellement,
voilà,
et effectivement, et notamment sur Marseille aussi.
Oui, sur Marseille, c'est pareil. J'ai vu pas mal de reportages sur ce qu'on appelle les fours, c'est-à-dire les endroits où il y a des gens qui en vendent.
Ouais.
Alors après, il y a tout un débat politique à avoir. Est-ce qu'il faudrait légaliser pour que ça soit mieux encadré, ou est-ce qu'il faut réprimer? Bon, moi, je pense que la répression, c'est un peu une impasse, mais...
Mais c'est ce qu'on fait depuis déjà pas mal d'années,
voilà,
et ça marche pas.
Et ça marche
donc,
pas.
Voilà, il faut peut-être essayer
autre chose.
Il faut dire, il faut peut-être dépénaliser et puis voilà, et essayer de faire en sorte qu'on dédramatise un peu la situation et surtout qu'on donne de l'activité
voilà,
aux jeunes qui font ça aussi bien dans le 93 qu'à Marseille et puis dans toutes les banlieues.
Bien sûr.
Qu'on les fasse rêver avec autre chose qu'avec des barrettes.
Ça fait pas beaucoup rêver quand on voit ce que c'est en vrai. Mais bon, il y a des personnages de dealers, il y a deux grands frères, enfin c'est des grands frères en fait, et j'ai voulu quand même le traiter ça, je le traite sérieusement. Alors il y a un deuxième tome qui est sorti parce que c'est une série, hein,
on parlera de la suite après
ouais. mais disons que j'ai dans le premier tome, enfin dans Amour Chrome, c'est traité quand même avec un peu d'humour quoi. J'essaye de pas faire de misérabilisme et de pas rendre ça trop
oui,
triste.
On vous rassure, il n'y a pas de Kalachnikov hein,
non,
dans
pas,
Chrome,
pas
donc,
pour le moment
ça va.
Ouais.
Et pas pour le moment. Ah bon, donc c'est la suite, si j'ai bien compris. Voilà.
Je ne dis pas, mais...
Très bien, j'ai bien entendu. Alors, il y a aussi des personnages qui sont très attachants, évidemment, et ce sont des jeunes filles. Les jeunes filles qui vont, quand elles vont apprendre, par exemple, et quand elles vont voir que Mohamed Ali est amoureux d'Aimé, elles vont lui dire, attends, tu peux pas aller lui parler comme ça, t'habiller n'importe comment, ça suffit, les survêtes rapiécées, non, il faut, on va rentrer, on va venir dans ta chambre, on va trier tes habits, tes fringues, et puis on va jeter tu vas changer de look,
voilà,
tu vas pouvoir la séduire avec ton look, mais pas avec ça, et les deux filles en question, ce sont Lina et Margot. Alors ça commence mal entre elles, hein, parce que bon, elles sont rivales,
Elles vont se mettre sur la
figure, hein, carrément. Et puis, comme souvent, elles vont devenir inséparables.
Une bonne bagarre permet d'avoir une bonne amitié après.
Il paraît, oui. Mais bon, en tout cas, chez les filles, ça se passe comme ça. Et donc, Lina et Margot vont accompagner Mohamed Ali. Et puis, vont comprendre qu'il est amoureux de Aimé. Et puis, que Aimé au départ, le calcule pas.
Voilà, comme on dit.
et donc, au fur et à mesure, et puis il y a une scène surréaliste. Aimé qui fait du football, mais elle a oublié ses chaussettes. Vous imaginez, pour faire du sport, et oublier ses chaussettes.
Elle a oublié à l'école, elle n'a pas oublié pour l'entraînement, mais
oui.
À l'école, elle les a oubliées. Donc...
Voilà. Et Mohamed Ali, il lui dit, ben attends, mais j'en ai. Et il lui prête ses chaussettes, qui pour lui est un acte d'amour extraordinaire. Vous vous rendez compte, c'est sa dulcinée.
Et puis un moyen de l'accoster aussi.
Exactement, exactement. Et donc, avec cette histoire de chaussettes, du coup, il est branché avec Aimé, et puis, ça va finir par un baiser, un seul baiser, et ce sera dans un moment particulier, dramatique, nous y reviendrons, mais cet apprentissage de la sexualité, de la sensualité, c'est quelque chose aussi que vous voyez, vous, en tant que parent et enseignant.
En tant que parent, moi, mes enfants, ils sont jeunes, hein, ils ont 9 et 6 ans. Donc,
ça va, ils ont le temps.
Voilà, ils ont le temps. Mais là, c'est aussi pas mal mes souvenirs d'adolescence, quand même. Et puis, ce que je vois autour de moi, c'est vrai. Alors, par exemple, pour Aimé, donc le personnage de la jeune footballeuse, pour essayer de construire ce personnage, je suis allé aux entraînements. Alors, mon fils fait du foot à l'Olympique Noisy-le-Sec, qui est mon équipe préférée après l'Olympique de Marseille. Et quand même, il faut garder les choses à leur proportion. Et donc, il joue là-bas. Et donc, je suis allé voir la coach des filles. Et j'ai demandé si je pouvais assister à l'entraînement des filles. Et donc j'ai assisté à l'entraînement des U13, U15, donc l'équipe féminine de Noisy-le-Sec. Et je me suis régalé, quoi. C'était un plaisir de les voir jouer, de les voir se chambrer entre elles et de s'appeler frère. Quand elles s'interpellent, elles disent frère. Puis elles avaient des blagues. C'est marrant comme l'actualité tout de suite se transforme en blague et en chambrage. Par exemple, au foot, des fois, on va au contact. Et donc il y en a une qui. Il y a une défenseuse qui collait une attaquante. Et l'attaquante, elle la pousse, elle lui dit dégage, tu pues le Covid. Voilà, il y a des vivacités de traits d'esprit comme ça que j'aime bien et que moi je note dans mon petit carnet et que après je réutilise dans mon roman.
Et qu'on retrouve après dans Amour Chrome,
voilà.
Par exemple.
Et donc j'ai construit Aimé en m'inspirant des joueuses de foot de l'Olympique Noisy-le-Sec.
Alors Aimé, elle a, figurez-vous, elle a une star qu'elle admire, qui est connue mondialement évidemment. C'est une joueuse américaine, et c'est Rapinoe qui est grande joueuse.
Megan Rapinoe. Ouais.
Megan Rapinoe, ouais, qui est une grande joueuse américaine et qui non seulement joue bien au football, mais qui en plus de ça, pour couronner le tout, et un certain Trump le sait bien, elle est lesbienne et elle revendique.
Et très engagée,
ouais. Le fait d'être lesbienne. Et justement, c'est un lien aussi avec votre livre, les deux héroïnes, Lina et Margot, s'allient avec Mohamed Ali pour faire un travail, faire un exposé, comme on fait beaucoup dans les collèges. Oui. Et l'exposé, c'est sur quoi ? C'est sur un festival de films lesbiens. Et donc là, on va toucher à autre chose. Et effectivement, quand après, elles vont le dire à Aimé, ben Aimé dit « Ah ben ça tombe bien parce que... » Moi, ma joueuse préférée, ma star adulée, c'est une joueuse lesbienne. Et donc, dans la classe du collège, c'est une classe de quatrième, me semble-t-il.
Troisième.
Bon, évidemment, alors, on commence à ricaner, quoi. Ouais, les lesbiens, ouais, ceci, cela. Mais ça se passe bien. C'est-à-dire que l'exposé se passe, donc ça a été difficile, parce qu'il y avait deux jeunes filles, plus un jeune garçon. Pendant l'exposé, ben, l'ambiance est assez étrange. Évidemment, ils sont ravis de l'avoir fait. Ça, c'est une bonne chose. Et tout d'un coup, il y a une déclaration d'une jeune fille dans cette classe qui dit, qui fait son coming out, tout simplement. Et ça, c'est touchant. C'est-à-dire que tout d'un coup, même chez les adolescents, on peut affirmer des choses. Et évidemment, c'est un exposé, autrement dit, c'est un travail scolaire qui a fait que l'ouverture d'esprit s'est créée. C'est un peu le rôle des professeurs, ça.
Oui, mais d'ailleurs, c'est inspiré de quelque chose qui m'est arrivé de véridique hein, quand j'étais enseignant à Villepinte, donc dans le 93, en lycée. Et en fait, j'ai des élèves de seconde qui m'ont demandé à faire un exposé sur un festival du film lesbien. Donc je me suis vraiment inspiré de ça pour raconter ça. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution des mentalités. C'est-à-dire que bon, il y a encore une homophobie qui existe, qui est présente et tout ça. Mais je veux dire, moi, quand j'étais collégien, ou quand même quand j'étais lycéen, il n'y avait pas de couple homo qui s'affichait, quoi. C'était impensable, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'ouverture par rapport à ça. Je vois avec mes amis qui ont des enfants qui sont au lycée ou au collège, ils me disent que ça existe. Il y a des personnages, même dans les séries, auxquels ils peuvent s'identifier. Je pense une série comme Sex Education, par exemple, sur Netflix, qui est une très bonne série dans laquelle on voit des personnages qui sont homosexuels. Et il y a aussi pas mal de jeunes, enfin quelques-uns, qui disent qu'eux, ils veulent pas qu'on dise qu'ils sont homosexuels ou hétérosexuels. Eux, ils sont amoureux d'une personne. Et après, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ils sont amoureux de quelqu'un. Et voilà, ils veulent pas qu'on leur mette forcément une étiquette, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est... je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même des avancées par rapport à quand moi, j'étais jeune, quoi. C'est-à-dire que...
Et bien sûr.
À l'époque, c'était impensable, quoi.
L'homophobie est un délit.
Oui.
Donc déjà, ça, c'est une avancée fondamentale.
Rien que ça, c'est
fondamentale,
nouveau. Oui, c'est vrai.
Fondamentale. Après, c'est vrai qu'il y a encore des mentalités qui doivent évoluer. Il y a des conduites, il y a des paroles dont qu'il faut chasser, qu'il faut faire attention, il faut être très vigilant aussi en même temps, mais c'est une ouverture. Donc c'est un livre, Amour Chrome, en fait, c'est un livre qui est positif, presque utopiste, sur les jeunes, la banlieue, le graphe, l'homosexualité, le sport, tout ça mélangé, vous avez réussi à trier tout ça. Et à faire s'exprimer toutes ces valeurs et tous ces domaines par le biais de personnages.
Dans la vie, ça se mélange, hein, tout ça se mélange. Hein. On n'est jamais univoque. Et la théorie, c'est quelque chose de figé, mais quand on écrit un roman, comme on est sur des personnages, on est sur de la vie, on est sur de la complexité. Et tout de suite, ça devient plus compliqué quand on écrit et quand on crée vraiment des personnages que quand on reste dans la théorie. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que ça. On met de la chair, quoi. C'est vrai que c'est du papier, mais quand même, on met de la chair quand on a des personnages, quand on les crée, qu'on fait ces histoires. Et ça a permis de faire des petits décalages. C'est un peu d'ailleurs le titre de la série, c'est Hippalage. Un hippalage, c'est une figure de style où on met deux choses qui vont pas forcément très bien ensemble. Par exemple, amour chrome. L'amour, c'est un sentiment et le chrome, c'est une matière. Donc les accoler ensemble, c'est un peu bizarre. Et moi, mes personnages. Ils se décalent, voilà, c'est des lycéennes de banlieue qui vont aller au festival du film lesbien, c'est une jeune fille qui va vouloir devenir footballeuse, c'est un bon élève comme Mohamed Ali qui va aussi faire du tag pendant la nuit. J'aime bien introduire ça, introduire des décalages, parce que quand même si on regarde autour de nous, la plupart des gens, ils ont un peu ces décalages, quoi. C'est rare que quelqu'un soit complètement d'une seule pièce, quoi.
Est-ce que c'est un livre sur la tolérance ?
Bah oui, je dirais oui, parce que c'est sur la manière de vivre ensemble et puis d'apprendre des autres aussi. Donc c'est vrai que là, par exemple, ne serait-ce que les relations entre les filles et les garçons, bah, c'est un âge où on peut avoir un peu peur, les garçons des filles et les filles des garçons. Et là, bah, ils apprennent à se connaître, Alors ça peut passer par se moquer, ça peut passer par la drague, ça peut passer par... des choses un peu voilà, différentes. Et c'est vrai que mon livre, il est un peu utopique dans le sens où moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, même si je suis conscient des problèmes. Et je suis quelqu'un aussi de pas misanthrope. J'ai espoir quand même dans les gens, dans l'humanité. Donc ça, je pense que ça se ressent dans mon livre.
On vous suit là-dessus, Sylvain Patieu. Mais en même temps, vous nous dites qu'il y a une suite qui est prévue, qui est... peut-être un petit peu plus violente, c'est ça ?
Alors voilà, le deuxième tome est sorti, il s'appelle Terrain Frère, et donc la focale, elle est plus sur Mohamed Ali, elle est sur Aimé. Parce qu'à chaque tome, on avance d'une année, donc là on n'est plus en troisième, on est en seconde, et on change de personnage. Donc,
et elle continue à jouer au football ?
Elle continue à jouer au football, mais alors elle a un problème avec sa coach, elle a une nouvelle coach avec qui elle ne s'entend pas, et elle a des problèmes avec sa mère, qui n'est pas très contente qu'elle joue au foot. Et... sur fond de... il y a une question générale dans le livre qui est aussi la question des violences policières. J'essaie là aussi de traiter ça, pas de manière manichéenne, pas en disant les policiers sont méchants et les jeunes sont gentils ou l'inverse, quoi. Et là, ça devient plus sombre au niveau des dealers, quoi. C'est-à-dire que je veux pas en dire trop, mais il y a un des dealers qui a un accident, qui devient paralysé. Et le fait d'être paralysé, il va se créer une sorte de personnage dans lequel il va se reconnaître, qui est le personnage de Jacques Santoni, qui est quelqu'un qui a un Corse qui a été accusé d'être un des parrains de la brise d'un des groupes mafieux qui existent en Corse. Alors bon, il est encore en procès, donc peut-être qu'il est innocent, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un personnage qui est handicapé, et lui, il va s'attacher à ce personnage. Et ça va être un peu son Tony Montana, quoi. Le personnage de Scarface, qui va se dire, je suis en fauteuil roulant, mais je peux continuer à contrôler le deal. Et voilà. Et du coup, il va être encore plus cruel que dans le premier tome.
Alors, Sylvain Patieu, vous avez remarqué que j'ai gardé pour la fin l'élément essentiel, autrement dit la date du baiser entre Mohamed et Mohamed Ali et puis Aimé. D'ailleurs, Aimé lui dit, attention, hein, c'est juste un baiser, mais il n'y a rien entre nous. D'abord, c'est le foot.
Voilà.
D'abord, c'est le foot. Et la date en question, figurez-vous, c'est le 13 novembre 2015. Et évidemment, ils sont au Stade de France parce qu'ils ont réussi à avoir des billets très particuliers pour le match France-Allemagne.
France-Allemagne,
donc, tout le monde se rappelle, bien sûr, et puis dehors, des explosions, et puis dehors, bien sûr, les terrasses de café à Paris, dehors, le Bataclan, qu'on ne peut pas oublier, forcément, vous jetez un éclairage sur cette date particulière, en faisant rencontrer, j'allais dire, se fracasser cette histoire d'amour entre Aimé et Mohamed Ali, sur la réalité, en fait, une réalité historique.
Oui, dans chaque tome, il y aura ça, c'est-à-dire que c'est ancré dans la réalité, et dans chaque tome, il y aura un événement qui a vraiment eu lieu. Donc là, le premier tome, c'est les attentats, le deuxième tome, c'est les violences policières. Et moi, j'ai été particulièrement touché par le 13 novembre parce que j'ai un ami qui est mort au Bataclan, qui s'appelait Mathieu Giroux, qui était un ami très proche, qui était géographe, et qui avait, quand il est mort, il avait un enfant du même âge que le mien, et puis... sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant, leur fille.
Et c'est vrai que tous les Français ont été touchés dans leur chair aussi.
Bien sûr, oui, oui.
De se dire, tiens, tout d'un coup, on va assister à un spectacle, on va boire un coup, on va à un match de foot, et on peut être abattu par des abrutis qui n'ont que ça dans la tête, et dont on fait le procès d'ailleurs à l'heure actuelle.
Voilà, c'est ça, en ce moment, il y a le procès, donc c'est
pas dur. Il faut éviter de leur laisser la parole, parce qu'ils vont dire n'importe quoi, et ce sont des messages de haine. Donc,
bien sûr, bah oui.
Votre livre est plutôt un message d'amour sur et de tolérance, donc je l'ai dit, c'est très important. Votre actualité, vous étiez hier interviewé par une certaine Maya Michal.
Voilà.
C'est très brillant. Amour Chrome, Sylvain Patieu.
Et il est sélectionné dans le prix du 04, le prix des adolescents du 04.
Le prix des littéraires. Hein,
voilà, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Donc, il est avec, y a d'autres livres. Il y a le livre de Flore Vesco, de Mariam Majidi, plein d'autres livres qui sont très bons livres.
Vous êtes en bonne compagnie.
Voilà, en bonne compagnie.
Donc, c'est bien.
Et surtout,
que
ça fait plaisir. Que...
Le prix,
voilà,
c'est
ça.
C'est bien pour...
Ce qui fait le plus plaisir, c'est de me dire qu'il y a des collégiens, des lycéens qui vont lire le livre et peut-être parmi eux des personnes qui sont pas très tentées par la lecture et que ça va leur donner envie de lire. Parce que je crois que c'est un livre qui peut plaire à des ados qui sont pas forcément des grands lecteurs mais qui vont être attirés par la langue, par le rythme du livre.
Par l'action.
Voilà, par l'action. Oui. Et peut-être que ça peut leur donner aussi envie après de lire d'autres livres, j'espère. Quoi.
Un roman où l'on parle de graphes et de football féminin, c'est quand même pas fréquent et, ouais. Et donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup Sylvain Patieu d'avoir été mon invité.
Et puis... bonjour à mes beaux-parents qui sont à Dauphin, donc
je
la famille Musel. J'en profite.
Une spéciale casse dédiée.
Voilà. Voilà.
Merci encore Sylvain, et puis continuez, et on espère vous voir bien sûr encore ici même aux correspondances. Je vous propose d'écouter quelque chose d'un peu particulier, c'est un reportage que j'ai fait dans une entreprise d'insertion que vous connaissez peut-être, c'est la ressourcerie de Haute-Provence à Sainte-Tulle, et dans cette ressourcerie il y a une animatrice, une formatrice, Samuel Loza, qui a demandé à ses salariés de travailler un petit peu sur cette collection mythique de la littérature française, Le Masque et la Plume, et ils ont fait des pastiches assez intéressants de couverture du Masque et la Plume, et actuellement il y a une exposition qui se déroule à Sainte-Tulle. On se retrouve tout de suite après, on écoute Samuel Loza. Samuel Loza, vous êtes formatrice à la ressourcerie de Haute-Provence. Quel est ce dispositif que vous avez mis en place pour les correspondances ?
Je suis formatrice en remise à niveau sur les savoirs de base auprès des salariés de RHP, qui sont des salariés en transition professionnelle. Et cette année, nous avons renouvelé l'expérience en nous saisissant des correspondances de Manosque pour réaliser un nouveau projet avec les salariés. Et cette année, ils ont réalisé des couvertures de livres en lien avec l'édition Le Masque et la Plume. Donc une sacrée expérience d'écriture créative auquel ils ont participé, où ils ont une fois encore renouvelé leur talent.
Ils ont écrit donc les titres de chacun de leurs livres et puis également la quatrième de couverture. Ça a été un travail d'écriture.
Exactement. À partir de consignes d'écriture, ils ont réussi effectivement à rédiger un titre, une quatrième de couverture, et en plus, ils ont réalisé une biographie que nous allons illustrer par des photos. Cette activité d'écriture, en fait, nous la lions au savoir de base auquel ils participent régulièrement en formation, et nous attachons un point particulier à la professionnalisation de ces salariés sur leur poste de travail. Ils viennent régulièrement en formation justement pour approfondir les savoirs de base, les écrits professionnels qui leur seront utiles à la suite de leur passage ici dans le monde du travail.
C'est également un travail collectif.
Ils sont en équipe, chacun lit ce qu'il a fait, chacun donne son avis. Voilà, c'est un travail d'équipe et ils sont toujours très heureux de participer et de révéler leur potentialité aux autres aussi. Ils se découvrent toujours un peu plus.
Ils ont d'ailleurs beaucoup de mérite parce que certains d'entre eux n'ont pas la langue française comme langue maternelle.
En fait, quand nous sommes en session de formation, nous travaillons les écrits différemment. Et là, en atelier d'écriture, justement, ils peuvent exercer leur imagination, leur créativité et libérer leur expression. Et ce qui donne ce travail-là de réalisation de couverture de livres qui est vraiment réussi.
C'est un travail que l'on va pouvoir admirer et puis pas uniquement admirer, on va pouvoir aussi participer à l'écritoire que la ressourcerie va installer pour les correspondances.
Donc cette exposition va avoir lieu dans le cadre des correspondances de Manosque, donc du 22 au 25 septembre. Et nous invitons les clients, tout visiteur, à participer à un écritoire, à un jeu concours, en suivant des consignes d'écriture qui vont permettre à tout un chacun de réaliser à leur tour une couverture de livre en trouvant un titre, une quatrième de couverture et en réalisant une biographie. et il y aura un gagnant qui sera sélectionné par les salariés, normalement à l'issue des correspondances. Le gagnant qui sera sélectionné par les salariés pourra bénéficier d'un bon d'achat de 50 euros.
On va rappeler ce qu'est la ressourcerie de Haute-Provence. C'est une entreprise d'insertion.
Oui, c'est une entreprise d'insertion par l'activité économique qui accueille des salariés en transition professionnelle et qui les accompagne vers l'emploi durable. La ressourcerie, elle réceptionne des dons. Les salariés trient les objets, les bibelots, la vaisselle, les vêtements. Ces objets et tous ces articles sont valorisés et vendus en boutique.
Ici même à Sainte-Tulpe, route de Sainte-Tulpe quand on est à Manosque.
Oui, c'est ça. Dans la zone Les Bastides Blanches à Sainte-Tulpe.
D'ailleurs, je crois que Les Bastides Blanches, c'est un titre d'un livre du Masque et la Plume.
Exactement, nous sommes un petit peu amusés aussi à inscrire en fait la ressourcerie dans ce projet-là et Les Bastides Blanches fait l'objet d'un titre de couverture également. Oui, oui.
Samuel Loza, formatrice à Porte-Accueil et donc à la ressourcerie de Haute-Provence, je vous encourage évidemment et je vous invite à aller voir cette exposition. C'est assez croustillant et puis il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination de la part de ces jeunes, de ces personnes qui sont salariées de la ressourcerie. On n'a pas terminé notre émission et là je suis très content parce que figurez-vous qu'on va lever le voile sur des personnes et des activités qui travaillent pour les correspondances, qui sont responsables du succès de ce festival mais dont on ne parle jamais. Autrement dit, ce sont les personnes qui accompagnent les auteurs, ce sont les personnes qui vont les chercher parfois jusqu'à Marignane ou à la gare TGV, et puis qui les accompagnent, qui vont les accompagner aussi, et c'est le cas de notre invité, jusqu'à un studio radio à Manosque, mais c'est aussi des personnes qui vont accompagner les journalistes qui viennent de Paris et d'ailleurs pour suivre le Festival des Correspondances. J'ai le grand plaisir d'accueillir un ami. On va essayer de se vouvoyer quand même, Laurent, parce que on est à la radio.
D'accord.
C'est Laurent Payet qui est attaché de presse et qui fait ce travail. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être là. Il faut vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Expliquez-nous votre métier d'attaché de presse et puis après votre place ici même dans le Festival des Correspondances.
Alors je dirige une agence de relations presse parisienne qui s'occupe d'un certain nombre de festivals, donc dont les Correspondances de Manosque. C'est-à-dire que on va travailler nous en amont par rapport aux correspondances, on va essayer de prévenir les journalistes à peu près 2 à 3 mois avant, donc journalistes parisiens et journalistes régionaux aussi bien évidemment. Donc on fabrique un dossier qui s'appelle un dossier de presse qu'on envoie aux journalistes, donc on rédige des communiqués de presse qu'on envoie aussi aux journalistes et on essaie de les faire venir à Manosque, ce qui marche plutôt pas mal généralement. Donc, voilà.
Oui, en plus de ça, c'est souvent fin septembre, il fait toujours assez beau, donc quand on est à Paris, effectivement, on vient en Provence. Ça fait déjà plusieurs années que vous faites ce travail.
Pour Manosque, ça fait presque 8 ans maintenant. Mais voilà. Et pour d'autres festivals, ça fait parce qu'on travaille aussi pour le Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil, pour BD à Bastia, pour les promenades littéraires en Haute-Savoie, par exemple. Et donc, on est une équipe de 5 personnes.
Et vous êtes vous-même, alors vous marchez beaucoup, comme Olivier Chaudançon, ça marche beaucoup quand on travaille pour les correspondances, et en même temps ça vous permet quand même de croiser, alors les musiciens bien sûr vous en connaissez, et puis vous les voyez un peu tous les ans,
oui,
régulièrement.
On travaille régulièrement avec eux, mais ça permet surtout de croiser des auteurs, donc on fait aussi ce métier par passion, donc c'est-à-dire qu'effectivement on a un bien fou à pouvoir discuter, à pouvoir prendre 5-10 minutes et discuter avec tous ces auteurs, quoi.
Et puis en aparté en plus, souvent,
oui, bien
la plupart
sûr,
du temps.
Voilà.
Hein, quand on est en voiture avec un auteur, bah, on passe un moment.
Exactement, puis on a des trajets, donc effectivement des trajets un peu privilégiés, puisque je les emmène à la radio chez vous, donc, par exemple, mais je peux les emmener aussi dans d'autres endroits, et c'est toujours le temps qu'on prend pour discuter ensemble.
Et c'est un temps précieux, et puis en même temps, c'est important aussi parce que c'est toute l'ambiance de Manosque qui rejaillit sur les personnes qui viennent ici. Bah, on n'est pas dans une émission de François Bunel ici même, c'est François François Malabave qui fait ça. C'est différent.
Non, mais l'ambiance de Manosque, elle est très particulière.
Exactement.
Donc, mais pour une raison, c'est-à-dire que ce n'est pas une foire au livre. Donc, c'est pas un salon du livre. Donc, c'est vraiment un festival. C'est-à-dire que les auteurs vont vendre des livres, mais après. On ne vient pas forcément pour acheter leurs livres, on vient pour les écouter, on vient pour les rencontrer, on vient pour leur parler directement. Ils sont souvent très sensibles à ça, aussi eux de leur côté. Et c'est vrai que ça crée des rencontres qui sont complètement différentes de celles des salons du livre où les auteurs ne viennent que pour signer, quoi. Donc là, ils ont le temps, donc ils se posent dans les cafés alentours, les gens viennent leur parler quand ils ont fini leurs interventions. Et tout ce climat est assez exceptionnel. Et moi qui ai fait beaucoup de festivals, j'avoue qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs.
Hier, une amie me disait, l'année dernière, figure-toi que j'étais au Théâtre Jean Le Bleu et tout d'un coup, je vois un Enki Bilal qui me demande s'il peut s'asseoir à côté de moi. Donc, oui, on est allé écouter Jeanne Chéral. Évidemment, elle était dans ses petits souliers, mon amie.
Je peux comprendre.
Et puis, elle a dit, ça vous ennuie pas, monsieur Bilal, si je fais un selfie avec vous? Pas du tout, au contraire. Et donc, elle a passé une soirée doublement réussie avec Jeanne Chéral et Enki Bilal. Donc, c'est ça aussi les Corées.
Les auteurs sont très détendus ici, donc je pense qu'ils sont très bien accueillis. C'est là qu'il faut parler aussi effectivement des autres personnes, pas simplement des relations presse, mais de tous les bénévoles, c'est-à-dire ces gens qui prennent de temps en temps carrément une semaine de congé sur leur travail, pour accompagner les auteurs, pour aller les chercher à la gare, pour donc les servir à table aussi, effectivement pour organiser tout ce qui est le barriérage, l'organisation, etc., de manière à ce que tout le monde se sente pris en charge, d'une certaine manière, de la meilleure manière possible, quoi. Et ça, c'est ce qui crée finalement l'ambiance de Manosque.
C'est un des secrets d'ailleurs de la réussite du festival, cette convivialité très particulière.
C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont souvent des auteurs parisiens, entre guillemets, mais les auteurs, ils se parlent entre eux aussi. Voilà. Et on sait très bien, parce que nous, on les écoute beaucoup en tant qu'attachés de presse aussi, on sait très bien quels sont les festivals qu'ils aiment et ceux qu'ils n'aiment pas. Je ne parlerai pas de ceux qu'ils n'aiment pas, mais donc, c'est-à-dire le bruit court. Donc, en disant, wow, t'as pas été encore à Manosque, il faut absolument que t'ailles à Manosque, c'est hyper sympa, tu vas voir, on est super bien accueillis, etc. Il y a d'autres festivals d'ailleurs qui ont réussi ça aussi, donc bien évidemment. Les promenades littéraires en Haute-Savoie, par exemple, fonctionnent aussi très bien comme ça. Mais cette ambiance fait que les auteurs même sont contents de se retrouver ici, entre eux.
Alors c'est vrai qu'on a ici un phare particulier qui s'appelle Jean Giraud, mais aussi il y a ces cooptations qui se créent ici même. D'ailleurs, le festival cette année est clôturé par une rencontre. Sylvain Prudhomme et Albin de la Simone, ils se sont rencontrés à Manosque, tous les deux. Et en même temps, ils se sont cooptés parce que l'écriture de l'un et les musiques de l'autre se complètent. Et dimanche soir, ils vont clôturer ce festival de belle manière, je suppose, puisqu'on leur fait confiance tous les deux. Ils ont du talent. Laurent, quand on a passé 8 ans comme ça ici à Manosque, on a certainement quelques petites anecdotes croustillantes. Une positive pour commencer.
Non.
Il ne veut
ça,
pas donner.
Ça,
il
je
veut...
ne peux pas.
Il ne veut pas.
Non, vraiment. Ça, c'est mon secret, le secret du métier. Donc,
mais même sans donner de nom, de dire tiens, elle a fait ceci ou lui, il a fait cela, ce qui était assez étonnant quand même.
Moi j'en ai plein, mais ça n'intéresse personne. Non, mais je peux vous parler des auteurs qu'il faut réveiller le matin, donc effectivement.
Par exemple, voilà.
Donc ça, effectivement, parce qu'ils ont fait la fête le soir, bien sûr.
Ça aussi, c'est l'un des succès, des éléments du succès des correspondances, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin des concerts.
Non, ça se termine assez tard, même très tard. Et nous, on a le problème des attachés de presse, c'est-à-dire que nous, on se couche tard, mais il faut qu'on se lève tôt.
Voilà. Et oui.
Donc j'ai réveillé un certain nombre d'auteurs, quand je dis réveillé, vers 10h, 10h30 le matin, j'ai été chercher dans leur chambre parce qu'ils avaient des rendez-vous, soit dans les radios, soit dans d'autres médias. Ils avaient complètement oublié que c'est totalement endormi. Effectivement, ça, c'est assez courant.
En même temps, c'est votre boulot, mais les pauvres, vous n'avez jamais reçu de chaussures sur la tête,
ça va. Franchement, j'ai reçu beaucoup d'excuses, au contraire. Donc, en disant, oh, excuse-moi, on a oublié tout, on a fait la fête. Enfin, je suis désolé. Donc, voilà. J'ai aussi réveillé un certain nombre de journalistes, d'ailleurs, aussi.
Quelle honte.
Qui, de leur côté, n'arrivaient pas à se lever le matin pour faire leurs interviews. Là aussi. Et non, sans ça, il n'y a pas de... Comment vous dire, ce qui est très amusant, c'est ce qu'on appelle l'after, après les concerts. Quand on se retrouve, entre guillemets, entre nous, bénévoles, aussi auteurs, avec Olivier et Evelyne, bien évidemment, et la fête prend une autre dimension. C'est à la fois une fête où on se fait plaisir, on peut danser, on peut manger, etc. Mais on peut aussi discuter. Donc, et ça continue à parler littérature tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très intéressant ce que vous disiez sur Sylvain Prudhomme. Parce que, par exemple, j'ai une anecdote là, effectivement, où je suis dans un hôtel de Manosque. Je vois souvent les musiciens répéter, donc, et à l'extérieur, donc dans la salle, ou juste à l'extérieur sur la terrasse. Et je vois souvent des écrivains venir vers eux aussi. Donc, et ça commence à discuter autour des répétitions des écrivains. Et finalement, c'est un peu comme ça aussi que les relations se créent. C'est-à-dire qu'ils s'embarquent sur des textes, des choses, etc. Ça peut devenir assez... assez pointu, assez précis. Donc, ils recherchent des choses ensemble. Et ça, c'est magique aussi, donc d'assister à ça depuis sa chambre d'hôtel. C'est un truc qui est extraordinaire.
Ils ont une passion commune, tout simplement.
Oui, exactement. Hein, simplement. Donc, véritablement. Quoi. Donc,
est-ce que vous avez le temps d'écouter un petit peu un écrivain sur une place de Manosque ou un spectacle? Vous pouvez aller au spectacle?
Oui, les spectacles, oui, mais les écrivains, je n'ai pas le temps de les écouter. Donc, simplement parce qu'il faut, effectivement, j'écoute un petit peu 10 minutes. Mais alors, il y a une partie de notre métier qui a changé aussi. Il faut qu'on gère aussi les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire aller faire des photos sur tous les endroits, donc poster sur Instagram, poster sur Twitter, donc poster sur Facebook, tout ça fait aussi partie maintenant du métier, ce qui fait qu'on a très peu de temps, nous, pour écouter les rencontres. En revanche, on profite effectivement souvent des spectacles du soir.
Et j'ai eu une sacrée chance quand même d'avoir pu attraper Laurent Payet pour tout simplement parler avec lui de son boulot.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile
et c'est
ce
quelqu'un
moment.
Avec qui je travaille avec une grande attention et un grand plaisir, parce, comme toute l'équipe d'ailleurs, hein, que ce soit l'équipe ici à Manosque ou à Paris, c'est un plaisir, c'est un bonheur pour moi. Donc merci encore Laurent d'avoir été notre invité
pour parler
de ce métier de l'ombre, mais ô combien nécessaire. Sans vous, pas de festival. C'est simple.
Il ne faut pas
c'est
exagérer.
Oh là là,
sans nous, pas de journaliste.
Voilà. Ouais, voilà. Donc ça veut dire pas de festival.
Pour
c'est
moi, c'est
simple.
Un petit peu.
C'est
voilà.
Simple aussi.
Merci beaucoup, François.
Merci beaucoup, Laurent. À tout
à l'heure.
Évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à Thierry Borde qui a assuré la régie. Et puis, profitez évidemment des correspondances tout ce week-end avec. Il n'y a pas uniquement la clôture. Il y a aussi quelque chose d'important. Cet après-midi, il y a Julien Delmer, qu'on connaît bien ici même, qui a été en résidence et qui va présenter son dernier roman qui est Delta Blues. Ça nous parle aussi ici même, où on a des émissions de blues. Il va présenter ça à la petite marmite et il sera en discussion avec les lecteurs. Voilà aussi le sens des correspondances et le sens de ce beau festival. Merci, bonne journée à tous, à bientôt.